France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
À l'occasion des nuits de la lecture, et alors que le papier est concurrencé par le charme des écrans, il serait tentant de supposer que les livres sont condamnés à déposer les armes devant leurs successeurs de la vidéosphère, les films, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais surtout les séries télé. Mais il serait encore plus séduisant de raconter l'histoire de ce va-et-vient, de cette influence mutuelle qui se déploie entre la littérature et les séries télé. À vrai dire, ces dernières ne sont-elles pas les descendantes du roman feuilleton ? N'ont-elles pas pris le relais de l'exigence tindalienne d'être un miroir que l'on promène le long d'un chemin ? Certes, mais il se pourrait que les séries télé incitent bien plutôt la littérature à réinventer sa singularité, à créer de nouvelles formes, moins scolaires, plus imagées, pour exprimer la complexité de notre époque. Les séries télé vont-elles révolutionner la littérature ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de l'écrivain Victor Malzac, du scénariste Olivier Cohn et de l'universitaire Hélène Monet-Cantagrel.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Victor Malzac.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et vous venez de faire paraître deux livres dont nous allons parler, Le Monstre Mûr aux éditions Les Corps Conducteurs et un recueil de poésie, Lessive, aux éditions Le Castor Astral. Bonjour Hélène Monet-Cantagrel.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en humanité à l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers de l'art, docteur en sciences de l'information et de la communication et auteur de l'ouvrage Le format Bible des séries télévisées aux éditions de l'Harmattan. Et bonjour Olivier Cohn.
Bonjour.
Vous êtes scénariste de séries et ancien critique de cinéma. Il y a ces nuits de la lecture que je mentionnais en introduction, du 21 au 25 janvier 2026, une succession d'événements en lien avec la lecture, l'occasion peut-être aussi de questionner l'éventuelle crise de la lecture que nous traversons. Quand on parle de penser sans préjugés, on peut partir de ce préjugé-là, avec des ventes de livres qui existent toujours, qui sont évidemment importantes, mais un chiffre peut-être alarmant qu'on peut souligner, des jeunes Français qui passent en moyenne 10 fois plus de temps sur les écrans que devant un livre, selon une étude du CNL d'il y a 2 ans. À cet égard, je voulais partir de l'entretien, Victor Malzac, que vous avez accordé la semaine dernière au Monde, et d'une phrase dans cet entretien où vous dites « Prenez Stranger Things ou n'importe quelle autre série télévisée, c'est plus développé en termes de narration que n'importe quel roman. Nous ne faisons plus le poids, nous les romanciers, donc il faut qu'on invente autre chose, qu'on crée un autre type d'espace littéraire. Qu'avez-vous voulu dire par là ?
Alors évidemment, cet entretien-là est un peu caricatural et c'est aussi une manière de m'amuser avec ce que je dis. Il faut relativiser ce propos. Je ne suis pas du tout en train de dire que toutes les séries sont meilleures que les romans. Je suis simplement en train de dire que dans l'histoire de la littérature et des médias artistiques en général, on ne peut pas faire l'économie de ce qui se passe autour dans les autres médias. Ce que j'ai dit là des séries télé pouvait se dire il y a 100 ans, voire il y a 50 ans avec le cinéma. L'idée tout simplement que les genres narratifs se multiplient, prennent des formes diverses, et que je constate en 2026 que aujourd'hui les séries télévisées, mais aussi les jeux vidéo, il y a aussi question de jeux vidéo dans cet entretien, ont proposé quelque chose de très intéressant narrativement, et qu'inversement, beaucoup de romans, pas tous et heureusement, ont, selon moi, se sont assoupis sur des préjugés narratifs, que sont par exemple l'obsession pour les récits familiaux, l'obsession pour les effets de réel, c'est-à-dire que beaucoup de romans se passent uniquement, par exemple, dans la ville de Paris, ce qui me pose un énorme problème personnel, à la fois imaginatif, à la fois politique, à la fois esthétique. Et je pense que je mets personnellement en valeur une écriture qui n'est pas cantonnée à ces réalités-là et qui devrait s'inspirer davantage de ce qui se fait dans beaucoup de séries de grande qualité, sans mépris culturel et sans mépris de classe.
Je trouve, en vous entendant, que ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport à cette inquiétude qui peut exister, ou ce préjugé selon lequel les séries télé auraient remplacé la littérature et que ce serait une mauvaise nouvelle. Olivier Cohn, vous avez un parcours un peu, un peu inverse. Vous venez de la littérature, vous avez fait des études de littérature, vous avez travaillé, je crois, en particulier sur les romans de Conrad, et vous êtes déplacé vers l'univers de la série télé. Comment êtes-vous devenu scénariste? D'où est venue cette envie? Et est-ce que c'était une envie qui était une continuation de vos études littéraires?
Probablement qu'il y a un lien. Le lien, c'est évidemment celui du récit, de raconter une histoire. Mais je suis pas, j'ai pas été scénariste tout de suite, en fait. J'ai eu un parcours, je suis devenu scénariste autour de la trentaine. J'ai d'abord commencé par faire des études littéraires, effectivement, mais j'ai eu en parallèle une passion très forte pour le cinéma, qui est devenue une sorte de but dans la vie. Et c'est pour ça que je suis devenu critique de cinéma avant d'être scénariste. Et le passage, donc, s'est fait en deux temps. D'abord vers le cinéma, ensuite vers la télévision. C'est-à-dire que, en fait, je travaillais pour une revue de cinéma qui s'appelle Positif, qui était une revue vraiment de cinéphilie pure et dure. Et en même temps, il fallait que je gagne ma vie, parce que les rédacteurs n'étaient pas payés à l'époque dans cette revue. J'ai fait des fiches de lecture, ce qu'on appelle des fiches de lecture, et le hasard a fait que ça a été des fiches de lecture pour une chaîne de télévision. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans cette chaîne de télévision, je suis devenu ce qu'on appelle un conseiller de programme, et tout en gardant cette passion pour le cinéma. Et puis, on était au tournant des années 2000, et je me suis rendu compte, un petit peu avant d'ailleurs, et je me suis rendu compte que ce qui venait, alors à ce moment-là, des États-Unis, en termes de séries, n'avait pas à rougir à côté des films que je pouvais voir. Alors, je ne parle pas forcément des films d'auteurs les plus pointus, mais effectivement, ce qu'on disait à l'instant, du récit plus classique, et dans lequel je voyais tout à coup, à travers quelques séries, ça, les premières ont été, en ce qui me concerne, Urgence, Friends, par exemple, X-Files, qui sont des... Toutes, là, je cite ces séries parce qu'elles sont devenues des séries cultes. J'imagine que les auditeurs s'en souviennent un petit peu. Et donc là, j'ai eu une espèce de sentiment un peu de dédoublement, parce que d'un côté, j'avais donc cette activité de critique et où j'avais cette passion pour des films d'auteurs très, très, très pointus. Et en même temps, je découvrais cette narration-là. Et je trouvais qu'il n'y avait aucune honte à approfondir cette approche de l'histoire et du récit à travers le support des séries. Et donc, de fil en aiguille, je suis passé de la chaîne de télé à une maison de production pour laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps. Et puis ensuite, je suis devenu scénariste. Donc oui, une certaine continuité dans mon ressenti, en tout cas.
Hélène Monet-Cantagrel, est-ce que vous partagez ce constat, par exemple auprès de vos étudiants, et puis en général, d'une crise contemporaine de la lecture? Est-ce que les écrans ont un rôle dans cette crise de la lecture, si vous le partagez? Et est-ce que les séries télé en sont les bénéficiaires, en un sens?
Alors, il y a une crise de la lecture, mais il y a toujours eu une crise de la lecture. Ça fait 30 ans que j'enseigne, donc je peux vous dire qu'il y a toujours eu une crise de la lecture depuis 30 ans. Après, j'ai eu toutes sortes. J'ai eu des élèves, donc en pré-bac, et puis maintenant, j'ai des étudiants en post-bac. Et je peux faire ce constat qu'effectivement, il y a une difficulté à lire. Et en même temps, là, je l'ai constaté cette semaine. J'ai eu des étudiants qui ont fait des exposés, qui à l'occasion d'exposer, en fait, m'ont dit unanimement que ils ne lisaient pas, qu'ils avaient du mal à lire, et puis que là, ils avaient rencontré un livre. Donc, en l'occurrence, c'était Retour à Reims de Didier Ribon, et puis auparavant, il y avait Les Vagues de Virginia Woolf. Donc, vous voyez, et ils ont manifesté aussi, notamment pour Les Vagues, le désarçonnement, en fait, qui a été le leur pour un livre qui n'ont pas l'habitude de lire, évidemment. Et donc, je pense qu'en fait, il y a une crise de la lecture, mais après, et ça rejoint un petit peu le préambule que vous aviez sur les lignes de la lecture, sur le fait qu'il peut y avoir des créations de rencontres, et je pense que les nuits de la lecture, par exemple, ce genre d'événements, peuvent créer justement cette rencontre, en fait, possible avec des voix, des œuvres littéraires. Après, qu'est-ce que vous me posiez d'autre comme question? C'était
si les séries télévision.
Les séries, c'est amusant parce que les séries, on croit toujours que il suffit de parler des séries avec les étudiants et on va tous être sur la même longueur d'onde. Non, pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, alors en tout cas les miens, qui sont quand même des étudiants en art appliqué, donc en fait, ils sont un petit peu une élite. Faut pas le nier. Ils ont plutôt le sentiment d'être des sujets de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, les séries Netflix en particulier, qui sont par bloc de saison, qui sont complètement personnalisées au sens marketing du terme, tout ça, bah, en fait, ça les fatigue un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de culture sérielle. C'est-à-dire que quand je leur parle quelquefois des Sopranos, les Sopranos, donc c'est la série qui a initié ce qu'on appelle le troisième âge d'or des séries télé en 1999 sur HBO. C'est donc une série de, je recadre un petit peu au cas où ce ne serait pas familier des auditeurs, c'est une série sur la mafia en gros, enfin, c'est un mafieux qui va en thérapie. Donc cette série-là, elle a été vraiment elle a vraiment initié, inauguré vraiment quelque chose. Ça, ils connaissent pas du tout. Mais je dirais même que si je vais un petit peu plus loin, à Lost, bah Lost, ils savent que leurs parents ont regardé, qu'ils ont adoré, mais ils ne connaissent pas en fait. Donc il n'y a pas de culture sérielle. Parce que je pense que c'est de la faute de Netflix, alors là c'est mon avis, hein, que tout le monde ne partage pas forcément, mais le fait d'avoir initié une consommation vraiment de la série, alors qu'en fait, la série, quand elle se regardait encore de manière hebdomadaire, c'est pas seulement un phénomène de nostalgie de ma part, je pense qu'il y a une nécessité en fait à l'hebdomadaire qui amène à tout simplement digérer la fiction, parce qu'on ne consomme pas de la fiction comme ça, on ne va pas passer comme ça de Stranger Things. C'est intéressant, Netflix, comment ils nous font passer à la fin d'une série à quelque chose qui n'a rien à voir. Enfin, c'est du bombardement, en fait.
Alors, c'est très intéressant sur ce bombardement, et pour poursuivre ce dialogue qu'on essaye d'initier entre l'univers des séries télé et celui de la littérature, une question, Victor Malzac. Les écrivains qui parlent du désamour qu'on peut avoir pour la lecture sont globalement rares. Il y a un primat pour celui qui va dire « j'ai grandi dans les livres, j'avais l'amour du texte, de l'écriture, de la lecture, dès le berceau quasiment ». Vous, c'est l'inverse. Vous le dites, ça se sent, enfin d'ailleurs c'est aussi, je crois, un des sujets notamment du Monstre Mur. Vous n'aimiez pas lire dans l'enfance.
Oui, c'est vrai, ça s'explique hein, sociologiquement, mais aussi tout simplement... J'ai envie de dire esthétiquement, je pense que je fais partie des adolescents qui n'étaient pas portés à la lecture, qui préféraient faire d'autres choses, alors peut-être voir des films, mais aussi faire beaucoup de sport. Moi, je faisais beaucoup de sport. Je préférais sortir, et l'activité de lecture, non seulement me faisait peur, parce qu'elle était liée au système scolaire, et en plus m'ennuyait. Et la question de l'ennui était particulièrement intéressante, parce que elle signifiait déjà que je n'avais pas le bagage culturel ou intellectuel nécessaire pour acquérir le plaisir de lire. Lire étant considéré comme une activité plutôt noble hein, dans notre culture occidentale. Et donc, j'étais objet d'un mépris social, je pense. Et donc, je me suis réfugié dans cette espèce de refus de lire. Et puis, quand j'ai commencé, avec une main tendue et avec un peu de chance aussi, quand j'ai intégré une hippocagne, grâce à un poète qui est décédé aujourd'hui, je me suis rendu compte que beaucoup d'écrivains qu'aujourd'hui j'apprécie partageaient ce désamour ou cette relation tendue avec la littérature classique. Je pense par exemple à Thomas Bernhard, qui est un auteur autrichien fameux, qui lui-même, quand il était adolescent, n'aimait pas lire et est tombé gravement malade. Donc je me suis largement identifié au parcours culturel de Thomas Bernhard. Et je me suis dit que je ne trouvais pas mon compte dans les livres, pas parce que c'était de ma faute, mais peut-être aussi parce qu'il n'existait pas, ou du moins à mes yeux quand j'étais jeune, il y avait une certaine pauvreté imaginative d'une partie de la littérature. C'est pour ça que je me suis mis à écrire, en me disant que je pourrais peut-être proposer quelque chose qui me sierait plus, qui serait peut-être plus actif, plus dynamique. Et puis évidemment, avec l'âge, on perd de l'orgueil et on gagne en humilité. Et je me suis rendu compte qu'en effet, cette littérature existait et qu'elle était particulièrement intéressante. Nous parlions en antenne de Claude Simon, par exemple. Claude Simon propose des romans non narratifs qui fonctionnent selon une logique d'épisode et de rythme que je trouve particulièrement intéressant, mais qui aujourd'hui... Claude Simon, un peu comme les séries que vous mentionnez précédemment, est un auteur qui n'est pas tant lu que ça. Il est lu par un certain public, hein, souvent universitaire, mais il n'est pas... Voilà, c'est pas un auteur grand public, on ne peut pas dire ça.
Olivier Cohn, je vous voyais...
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Victor Malzac sur l'aspect valorisé de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut peut-être distinguer plusieurs éléments qui sont effectivement le fait que la lecture... est considéré comme une activité plus noble que le fait de regarder, que ce soit des films ou des séries. Ça, c'est un premier point. Et puis, de l'autre côté, il y a en fait la diversité dans les deux cas, que ce soit la littérature ou le cinéma ou les séries qui peuvent être considérées comme une sorte de sous-catégorie des arts audiovisuels. On fait des généralités, mais en fait, on parle de continents entiers. C'est-à-dire que dans la littérature, comme dans le cinéma ou dans les séries, vous avez des choses qui sont extrêmement différentes. Vous avez des œuvres mainstream qui ne révolutionnent pas le langage artistique, et vous avez, à l'opposé, des œuvres qui, au contraire, n'arrêtent pas de chercher, je pense que c'est le cas des livres de Victor Malzac,
merci.
qui n'arrêtent pas de chercher autre chose. Et ça, ça me semble être une dialectique qui est extrêmement ancienne. Godard, évidemment, l'a résumé avec son art de la punchline en disant que c'était les marges qui permettaient de tenir les pages ensemble. Et voilà, donc ça, c'est aussi vrai pour le cinéma, les séries, que pour la littérature. C'est pas tout à fait la même chose que de dire que c'est plus noble de lire que de regarder une série ou un film.
Vous avez raison, Olivier Cohn, et merci pour ce premier préjugé déconstruit grâce à vous sur cette prétendue noblesse supérieure de la lecture par rapport à l'écriture. Vous avez raison aussi, par rapport au fait de regarder un film, et vous avez raison aussi de souligner qu'il y a cette diversité générique intrinsèque à la littérature comme aux séries, ce qui nous amènera peut-être à nous conduire à réfléchir sur la filiation entre un genre spécifique de littérature, le roman feuilleton, et la série télé.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Qui donc es-tu ?
Je m'appelle Rodolphe.
Eh ben, Rodolphe, maintenant que t'as mis le Schrödinger sous tes talons, tu peux faire les 400 coups dans la cité. À toutes les filles d'amour sont tes esclaves, et parole, les ogresses n'oseront plus refuser de te faire crédit.
Alors, profitons-en. Allons boire un verre d'eau d'Audaf, c'est moi qui régale.
Oh ! Et tu dévides le jar comme père Hébert.
J'ai bien le droit de parler argot et d'aimer l'agnole.
Oh, c'est pas ton genre. T'as de trop belles manières pour ça.
Tais-toi et viens boire.
Et les auditeurs auront peut-être reconnu un extrait des Mystères de Paris d'Eugène Sue, un extrait qui était diffusé sur France Culture. Hélène Monet-Cantagruel.
Cantagruel,
pardon. je me disais ma note, il y avait un U qui était en trop dans la note là.
Ça, c'est l'influence de Rabelais.
Exactement, dont on va parler. Est-ce que la série télé est la descendante légitime, l'héritière du roman feuilleton du 19e siècle?
Alors, c'est pas exactement mon champ de recherche, mais oui, on peut dire qu'elle est globalement l'héritière. Elle est l'héritière, en fait, d'un régime sériel. Mais après, les Mystères de Paris, puisqu'on prend les Mystères de Paris, 1842, sont pas exactement tout à fait, même si on reconnaît plein de choses, en fait. Hein, quand on lit les Mystères de Paris aujourd'hui, c'est passionnant, parce qu'en fait, on voit bien des... Parce que c'est de l'écriture sérielle au sens propre, c'est-à-dire que les gens, enfin, Eugène Sue en l'occurrence, c'est pas les gens, écrivaient donc à la semaine. C'est pas comme le découpage d'un roman comme Madame Bovary, qui a été découpé, donc ça, c'est un découpage éditorial. Donc, les feuilletonistes, Dickens, Eugène Sue, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, donc on retrouve bien des choses, comme ce qu'on appelle le cliffhanger, c'est-à-dire le fait de s'arrêter comme ça sur un épisode, ou en fait la mise en réserve aussi, hein, ce qu'on veut dire, on met en réserve tout d'un coup, on passe sur un pan de l'histoire pour s'intéresser à un autre pan de l'histoire, ce que pratiquent beaucoup les Américains qui fonctionnent de manière très très cloisonnée en fait dans les scénarios. Et après, il y a des. Alors après, la série littéraire, enfin le feuilleton, a évolué, elle a eu des périodes fin 19e ou quand l'explosion de la presse, donc en fait la sérialité se met à s'éditorialiser et puis aussi à se construire autour de personnages. Je pense notamment à la naissance du roman judiciaire qui devient le roman policier avec des personnages comme Rouletabille, etc. Et puis aussi des Fantômas, des Belphégor. Il y a le ciné-roman qui arrive avec le début du cinéma, etc. Il y a une sérialité cinématographique, il y a une sérialité radiophonique d'abord, et puis tout ça c'est investi, repris par les premières séries américaines, sont des reprises de séries radiophoniques, etc. Donc il y a toute un ensemble de mutations et d'évolutions comme ça qui font qu'on arrive aujourd'hui avec une autonomie que prend la télévision, je dirais dès les années 60, je pense, ou 70. En tout cas, je parle plutôt pour les États-Unis. En France, on n'a pas le même modèle, en fait, puisqu'on a des feuilletons, oui, qui sont pas des, qui n'ont pas le, les mêmes temps de production, qui n'ont pas non plus les mêmes temps de diffusion. On a encore beaucoup. Le téléfilm est plus important à la télévision en France déjà pendant longtemps. Et puis après, ce qu'on appelle les feuilletons français, les grands feuilletons français des années 60, sont quand même, c'est pas les mêmes formats de, c'est pas les mêmes formats temporels. Enfin, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est Olivier qui pourrait plutôt peut-être en parler.
Ouais, c'est sûr qu'il y a une diversité énorme dans la typologie des séries. On a d'ailleurs, on parle de séries feuilletonnantes, de séries bouclées, de séries semi-feuilletonnantes, de séries semi-bouclées. Enfin, il y a tout un tas de nuances dans la narration sérielle. Je reviens une seconde sur la naissance de la série, disons, dans cette image du roman feuilleton du 19e siècle en France. Ce qui est drôle aussi, c'est que quand j'étais jeune, on parlait des chaînes de télévision françaises inondées, c'était le terme, par les séries américaines, comme si c'était effectivement... Mais en fait, à l'origine, on parlait de Eugène Sue. Eugène Sue a été exporté et traduit dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Les Mystères de Paris est devenu Les Mystères de New York, parce que ça a inspiré des auteurs américains. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire qu'à l'époque, c'est les séries françaises qui inondaient le monde entier et qui ont inondé les séries américaines. Donc, en gros, on leur a envoyé Lafayette. On a récolté Trump aujourd'hui et on leur a envoyé Eugène Sue, on a récolté Breaking Bad. Je trouve que le modèle culturel est plus intéressant que notre rapport politique à l'histoire de l'Amérique.
Alors Victor Malzac, justement dans cette comparaison-là entre le roman feuilleton et la série, il y a la question de l'Europe et de l'Amérique. Il y a la question aussi de savoir si le paradigme du roman feuilleton repose sur la progression narrative. Vous, je me trompe peut-être en disant que ce que vous avez opéré, accompli dans Le Monstre Mûr, c'est peut-être réintroduire aussi des choses qui n'avaient pas leur place en littérature, le monde des écrans, le monde de la télévision, le monde des jeux vidéo, etc. Mais quand même en s'émancipant de cette logique de la progression narrative.
Oui, en fait, ma proposition textuelle, elle a, à mon sens, deux intérêts. Le premier, c'est évidemment de faire un petit pied de nez sociologique aux attendus d'un espace littéraire, puisque dans un espace fictionnel, on attend certains sujets, et moi, j'aime bien hybrider tout ça, mélanger tout ça, et faire entrer dans la littérature des choses qui n'y sont pas. Exemple, avec une grande télé, avec Schwarzenegger dans un livre précédent qui s'appelait Créatine, ici avec un jeu vidéo particulièrement peu intéressant qui s'appelle Grand Theft Auto, GTA.
Qui est intéressant quand même, et qui a aussi d'ailleurs un synopsis et qui fonctionne comme une série télé. Est-ce que peut-être vous pourriez nous, pour donner de... Parce que parler d'un livre de l'extérieur, c'est une chose, mais nous lire l'extrait où le narrateur parle précisément de cette télévision.
Je regardais la fenêtre. Je cherchais dans la brume la mer. Et puis l'année de mes 11 ans, on a changé mon programme scolaire. On a instauré un circuit de récompense et j'ai connu de nouveau le bonheur. On m'a mis une énorme télé de 400 pouces, une énorme télé posée devant la fenêtre, à la place de la fenêtre. On m'a dit de ne plus regarder la fenêtre, mais la télé énorme de 400 pouces. On m'a dit d'arrêter mes bêtises, qu'il fallait que je m'améliore, que je me concentre. Mais j'avais le droit de jouer après. Si j'avais de bons résultats, je pouvais jouer. Alors, je faisais mon travail, mes devoirs, et puis... On me forçait à regarder la télé tous les jours, les informations, les reportages tous les jours et des documentaires sur l'histoire et je comprenais tout par cœur. Et puis, pour me détendre, après les cours, le soir, je ne faisais plus rien que la télé. Alors seulement après tout ce travail, j'avais le droit de jouer à la PS9. Et c'est là que l'homme m'a offert GTA 9 sur PS9. Alors, toute la journée, je travaillais comme un porc. Je donnais le meilleur de moi-même. Et je n'ai plus jamais fait d'erreur. J'ai répondu à toutes les questions sans faute. Non, je n'ai plus jamais fait la moindre faute. Et le soir, je jouais tout le temps à GTA 9.
Alors, Olivier Cohn, je ne sais pas si vous jouez à GTA 9, mais la question que je me pose concernant l'écriture d'une série et l'écriture d'un roman, Je fais exprès de poser une question d'amateur naïve. Mais quand on écrit un roman, on le voit en entendant cet extrait de Victor Malzac, on n'a pas toujours, sauf dans certains cas, un plan précis en tête. Et évidemment, il y a une surprise de l'écriture qui est immanente à l'écriture elle-même. Dans la série, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire un document qui présente les idées générales, la trame, l'intrigue globale de la série. Les choses sont arrêtées avant qu'on puisse écrire le scénario précisément. Est-ce que c'est pas ça la grande différence, à savoir qu'on a une vision très très claire de ce qui va se passer, de l'histoire, et qu'il y a moins de surprises d'écriture, ou est-ce qu'il y a quand même des surprises d'écriture ?
Alors, il faudrait beaucoup plus de temps que ce qu'on a, je pense, pour développer ce point. Ça me paraît un peu étrange de penser que les auteurs de livres n'ont pas de plan quand ils commencent à écrire. C'est-à-dire, effectivement, quand on lit, et notamment en particulier probablement l'extrait qu'a lu Victor Malzac et sa manière d'écrire, donne l'impression que tout s'invente au fur et à mesure, que tout s'écrit au fur et à mesure. Et d'une certaine manière, c'est la même chose quand on raconte une série. Enfin, je veux dire, quand vous regardez une série, vous devez donner l'illusion que l'histoire se déroule et que vous la vivez avec les personnages. Pas qu'évidemment, ça a été pensé en amont par des scénaristes. Ça, c'est tout le travail, effectivement, des scénaristes que de donner cette illusion. Parce qu'évidemment, que dans les coulisses, eux, ils n'ont pas écrit leur histoire au fil de la plume. Donc il y a effectivement toute une réflexion, mais je ne suis pas certain. Après, encore une fois, il y a mille manières d'écrire des scénarios, comme il y a mille manières d'écrire des romans, et je suppose que tous les romanciers n'ont pas la même manière d'écrire, que peut-être certains se laissent aller au fil de la plume, mais peut-être que Victor lui-même a un petit plan au départ quand il écrit un livre. Je vais peut-être le laisser répondre à ça, je sais pas.
En fait, c'est extrêmement complexe, évidemment. Oui. C'est difficile de parler de sa création quand on l'a fait, mais personnellement, j'ai des plans. Et le but, c'est d'anticiper, de faire croire qu'il y a un effet de surgissement pour attiser de plus en plus la curiosité à mesure qu'on lit. D'autant que, dans mon cas précis, il n'y a pas de narration à proprement parler, c'est-à-dire il n'y a pas de début, de fin, de résolution d'un conflit. Il y en a une, mais qui est quand même relativement abstraite, qui n'est pas aussi précise et réaliste que dans une bonne partie des romans traditionnels ou des séries. Donc le but, c'est de faire croire justement qu'il y a une spontanéité, et dans les faits, elle n'est pas toujours là. Cependant, je dis ça, et en même temps, mon éditeur s'arrache les cheveux, parce que tous les deux mois, la moitié du livre a changé. Quand on met en valeur cette spontanéité et cette intensité, on a forcément des surprises. Et là, il y a peut-être deux régimes. La génétique textuelle, qui est une discipline universitaire, estime qu'il y aurait deux pôles d'écrivains, donc des pôles stendhaliens et des pôles balzaciens ou flaubertiens, où là, il y a un plan qui est plus précis, alors que chez Stendhal, il y a plus de spontanéité, plus de liberté. Voilà, c'est deux approches différentes. Moi, je pense que je suis plus du côté de Stendhal.
Et Hélène Monet-Cantagrel, cette question de la surprise de l'écriture dans les séries.
Mais elle est importante, et pour avoir travaillé sur les Bibles précisément quand j'ai fait ma thèse, en fait la Bible c'est une forme informelle, c'est-à-dire qu'en fait c'est un cadre qui pose un univers fictionnel mais qui est totalement ouvert aux contingences, les contingences notamment de production. Je prends par exemple, moi j'avais travaillé sur Battlestar Galactica, donc qui est une série de science-fiction en 2003 qui reprend en fait une série 78. Il y a dans la Bible, donc il y a des personnages, des fiches biographiques, et à un moment donné, ce qui s'est passé pour les scénaristes, quand ils ont fait dans la première saison le quatrième épisode, pouf, il y a la production qui a imposé le retour d'un acteur de 78 qui avait fait des pieds et des mains pour revenir. Et là, il a fallu que le scénariste ou la scénariste, je crois que c'était une scénariste, réécrive en fait l'épisode, et il a fallu intégrer plutôt ce personnage et dessiner une nouvelle ligne pour ce personnage, etc. Donc tout ça, c'est complètement, donc il y a de la surprise, je pense, pour ceux qui écrivent. Il y a de la surprise aussi parce que en fait c'est thymique, en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur cette intrigue qui doit conduire et tenir en haleine pendant on ne sait pas combien de temps, justement. Et c'est ça tout l'art des séries, c'est que notamment aux États-Unis, hein, ils peuvent être interrompus comme ça. Enfin, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était vrai à une époque. Donc évidemment, la surprise est là. Elle est aussi orchestrée, la surprise, hein, au moment des sweeps, c'est-à-dire au moment des mesures d'audience en fait par Nielsen. il faut déborder d'inventions. Et donc là, il y a les séries se déchaînent, en fait, si je puis dire, et débordent d'inventions. Voilà. Et parce que tout ça, c'est de la concurrence et que tout ça, c'est... Donc tout ça travaille beaucoup sur la surprise. Et l'amusement, c'est des shows, hein, faut pas l'oublier, c'est des shows.
Alors justement, c'est la question qu'on va se poser aussi. Quelles sont les marges de liberté et de normes, et donc aussi de puissance sociétale et politique que peut réserver l'écriture de la série et l'écriture du roman?
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Nos auditeurs ont-ils reconnu le générique de House of Cards, la célèbre série générique qui est un peu l'équivalent d'un incipit pour un roman? Je ne sais pas, je pose la question. Olivier Cohn, vous me pardonnez, je vous repose une question naïve et peut-être bête, mais je le fais volontairement. Qu'en est-il des normes économiques et des normes de budget pour une série? Parce qu'évidemment, quand on écrit une série, alors des romans, il y en a qui sont des best-sellers, mais enfin, il existe dans l'économie du livre des livres qui ne sont pas destinés à être publiés avec un grand tirage, etc. Mais quand on travaille sur une série, on travaille tout de suite sur des budgets éventuels qui vont être beaucoup plus importants. Dans quelle mesure ça affecte l'écriture elle-même?
On connaît pas toujours le budget au tout début de l'écriture, même si, bien sûr, si vous écrivez une série historique, vous savez qu'elle va coûter plus cher, et donc après, effectivement, vous pouvez avoir des discussions assez rapidement pour limiter. La question de l'économique se focalise souvent autour de certaines questions très pratiques, qui sont par exemple la question des décors. Si vous écrivez beaucoup de scènes dans beaucoup de décors différents, à un moment donné, la production va vous dire « Non, attends, c'est pas possible, ça va coûter beaucoup trop cher, il faut que tu réunisses plusieurs scènes dans les mêmes décors pour que le budget soit plus raisonnable. » Donc, il y a des influences de cet ordre-là, oui, bien sûr.
Et sur la question de l'attention, est-ce qu'il y a une exigence, quand on écrit une série, de capter comme ça l'attention? Alors, du spectateur?
Disons, je pense que tous les gens qui écrivent des séries aujourd'hui ont intériorisé un certain nombre d'éléments. Effectivement, Hélène parlait du cliffhanger, qui est la figure qu'on retient. Cliffhanger, étymologiquement, ça, c'est une vie suspendue à une montagne. Hein, donc c'est ce fameux moment à la fin d'un épisode, que ce soit d'ailleurs dans un roman ou dans une série, où le héros est dans une suspension. Il est suspendu, par exemple, à un rocher et à une falaise, et on ne sait pas s'il va tomber ou pas. Donc ça, c'est la figure la plus commune. Et effectivement, quand on commence à écrire une série, on sait très bien qu'on va devoir, pour le diffuseur, indiquer les cliffhangers en fin d'épisode. Après, là encore, je vous ai fait une description de cliffhanger parce que c'est l'étymologie, mais il y a plein de manières différentes de terminer un épisode. Vous pouvez le terminer par la frustration, qui est l'exemple que je viens de donner. Vous pouvez le terminer par l'empathie, avec une scène d'émotion qui va vous reconnecter encore plus fort à un personnage et vous donner envie de le retrouver à l'épisode suivant. Vous pouvez le terminer, alors ça c'est des séries peut-être un peu plus sophistiquées, par une forme de commentaire sur le propos qui a été suivi de l'épisode. Vous allez avoir un montage parallèle, par exemple, sur vos différents personnages qui vont vous indiquer où ils en sont à la fin de cet épisode-là. Donc il y a plein de manières de fonctionner différentes pour cette... Voilà. Mais il y a effectivement certains aspects d'une narration spécifique, notamment spécifique pour la série par opposition au cinéma, qui signent, oui, les séries.
Hélène Monet-Cantagrel, est-ce que ça veut dire que les normes se transforment en espace de liberté?
En tout cas, je voulais revenir sur la captation, parce que la captation, dans les bibles, justement, on la voit très bien. C'est vraiment un souci, en fait, parce qu'en fait, les bibles sont des documents qui sont aussi destinés à la chaîne, donc il faut promettre à la chaîne une réussite. Et je reprends l'exemple de Battlestar Galactica, qui est vraiment exemplaire, en fait, comme Bible, où effectivement, là, la question de la captation, elle se fait dans la construction, en fait, des arcs narratifs et de la structure globale de la série. C'est-à-dire qu'en fait, il conçoit, en fait, la structure globale avec des épisodes indépendants, avec des épisodes sur des intrigues sur 3 épisodes, et puis des intrigues sur la saison. Et tout ça, c'est pour jouer avec l'attention, en fait, et la captation des, notamment, de ce public qui est, qui ne regarde pas vraiment, mais qu'il faut retenir. Voilà, et parce que le fidèle, bon, il faut aussi garder le fidèle. Enfin, il y a tout un ensemble de... Et c'est ça qui est intéressant, qui est vraiment très intéressant dans l'écriture et dans l'analyse aussi des séries, d'ailleurs, Olivier.
Et Victor Malzague, justement, en vous écoutant sur cette question de la captation de l'attention, j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais que vous avez pleinement conscience d'écrire un lectorat qui est précisément celui que je mentionnais tout à l'heure, un lectorat qui passe 10 fois plus de temps, en tout cas pour les jeunes, sur son téléphone, sur des écrans, que devant un livre, et donc chez lequel la concentration n'est pas quelque chose d'évident. Alors ça passe par différents aspects. D'abord, une réhabilitation dans votre roman, le monstre mur des points de suspension, en mode un peu Céline Guignol's Band, Céline d'un château l'autre. Très difficile d'ailleurs de se réapproprier ce style-là, Solers l'avait fait dans Femmes. Ça passe par autre chose, le fait de mentionner aussi énormément l'univers saturé dans lequel nous vivons, celui des marques, celui un peu, je dirais presque une écriture qui tient compte du scrolling dans lequel nous vivons. Est-ce que c'était votre intention ?
Oui, alors pour les points de suspension, il y a évidemment Céline, mais mon influence majeure, c'est surtout Nathalie Sarraute, dont on parle peu, mais qui a quand même beaucoup investi les points de suspension, surtout dans Ici, qui est vraiment un livre, pour moi, magnifique. Oui, mon idée, c'était de faire une tension entre le monde réel, on parlait de Netflix tout à l'heure, qui nous agresse au quotidien, à la maison, dans les espaces intimes, dans la rue, les publicités. On est agressé en permanence par des signaux de consommation. Et donc, on est tellement agressé que je me demande, c'est la question du monstre mur, si une imagination est possible. Et donc, dans mon personnage est enfermé toute la journée, on le force à voir des images. Bon, ça, c'est pas original, hein. Orwell l'avait déjà dit, Bradbury aussi, bref. Et mon personnage essaie de sortir. Et alors, il essaie par le jeu vidéo, il essaie par le dessin, il essaie en regardant la fenêtre. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un moment de joie et de liberté hors des principes de consommation. Et évidemment, c'est la tension que je voudrais restituer. Pas juste le plaisir de mettre des fausses marques ou de parodier des discours qu'on connaît très bien, mais aussi de montrer comment ces discours sont agressifs et inversement, comment il est peut-être possible d'imaginer un espace beau, lyrique, défait de cette possibilité, de cette nécessité absolue de consommer.
Et c'est là peut-être que pour donner un exemple, il y a une scène dans votre roman avec un pâtissier qui se fait agresser par la police, par la Bravem, par Pat Patrouille, et ensuite par toutes sortes de marques que vous citez sur des paragraphes, enfin des lignes et même plusieurs pages si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est aussi ça, cette émancipation du réalisme qui pouvait être associé à un certain roman classique pour aussi véhiculer un message politique, ou en tout cas se réapproprier les angoisses politiques d'une société ?
Oui, évidemment, et puis je pense qu'on ne peut pas dissocier les approches politiques et esthétiques. À mon avis, un choix esthétique se répercute immédiatement sur la manière dont on parle du réel. Mon but, c'est de montrer que le réel est pauvre, et donc, dans le livre, de le parodier, de le détruire aussi. Il est à la fois très agressif, et en même temps, il est désagréable, et donc, on voudrait passer au-delà. Moi, c'est ma proposition. Je ne sais pas si ça marche. Ce que je sais, en revanche, c'est que faire ça, je ne pensais pas, en sortant ce livre, que les réactions seraient aussi fortes en voyant, par exemple, beaucoup de gens ont été surpris de voir des marques, de voir des éléments du quotidien mêlés à des approches complètement délirantes. Mais en fait, je pose une question simple. Je me demande si on ne pourrait pas... ce n'est pas antinomique pour moi de parodier la réalité et de proposer un ailleurs, un imaginaire. Je pense au contraire que c'est par la subversion de la réalité qu'on peut proposer quelque chose de nouveau. Et je pense aussi, pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, qu'on a un avantage dans la littérature, c'est la quasi-absence de rendement financier. Il y a évidemment une économie, mais elle est quand même beaucoup plus limitée par rapport à d'autres médias. Par ailleurs, je ne suis pas que romancier, je suis aussi poète, et donc je sais bien que la poésie est extrêmement précaire. On n'a pas de compte à rendre. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'investirait pas plus les espaces narratifs, de liberté, de pourquoi se conformer absolument à ce que l'on connaît déjà, et pourquoi ne pas empêcher justement détruire ce qu'on connaît déjà pour proposer peut-être, dans un des rares espaces protégés de la surconsommation, autre chose de plus nerveux, de plus vivant, de plus intense, quoi.
C'est ma proposition. Olivier Cohn.
Oui, effectivement. Alors, j'entends tout à fait ce que dit Victor et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le parallélisme entre le monde de la télévision, des séries télé et celui de la littérature. Parce qu'effectivement, cette considération-là, on pourrait l'avoir évidemment sur les séries télévisées. C'est-à-dire qu'il y a quelques séries, évidemment minoritaires, mais qui existent quand même, qui réinventent les formes, qui réinventent. J'ai vu, vous avez peut-être vu ça, j'ai vu ça la semaine dernière, une série qui en est à sa deuxième saison, alors série de HBO américaine, mais faite par un Canadien qui s'appelle Nathan Fielder, qui est The Rehearsal, donc la répétition en français, la répétition au sens théâtral du terme, qui effectue une mise en abîme entre la réalité et la fiction qui est absolument vertigineuse. C'est je pense, tous arts confondus, c'est un des objets les plus étranges que j'ai vus de ma vie. Et donc, j'en profite pour rebondir aussi sur la question de l'écriture, parce que j'ai une petite réserve sur la dimension de captation, de penser que l'écriture de série, là j'ai pu donner l'impression tout à l'heure que les scénaristes de série avaient comme but de capter à tout prix l'attention du spectateur comme une sorte de calcul. C'est évidemment pas le cas. Les scénaristes de série essayent avant tout de raconter des histoires. Et là-dessus, parce que je rebondis sur le mot répétition, qui est donc le titre de cette série, c'est un terme central dans la série, évidemment. Qu'est-ce qui se répète dans une série? Puisque forcément, dans le mot série, il y a l'idée d'une répétition. Et c'est là, peut-être, qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé au tournant, cet âge d'or de la télévision dont parlait Hélène tout à l'heure, dans les années 2000. C'est qu'avant, on avait, et là je fais de grandes généralisations évidemment, mais on avait des séries avec des héros invulnérables qui avaient des aventures bouclées dans chaque épisode, c'est-à-dire que chaque épisode redémarrait à zéro, on avait l'impression de redécouvrir le héros à chaque épisode qui n'évoluait pas. Alors qu'au tournant des années 2000, dans les séries dont parlait Hélène tout à l'heure, Les Sopranos, Six Feet Under, Mad Men, toutes ces séries un peu mythiques aujourd'hui, les héros sont devenus vulnérables et les épisodes ont cessé d'être bouclés et sont devenus feuilletonnants. C'est-à-dire qu'on racontait une histoire où le personnage évoluait. Mais, et ça c'est une nuance extrêmement importante, les personnages dans les séries n'évoluent pas comme dans un film. Quand vous êtes scénariste et que vous lisez des manuels de scénario, on vous explique comment raconter l'histoire d'un héros. Donc le début du film, ce sera un personnage comme les autres, un Kidam, Luke Skywalker, une jeune tête folle qui ne sait pas très bien ce qu'il va faire de sa vie, et qui va devenir à la fin du film, enfin en l'occurrence là, c'est plusieurs films, autre sujet intéressant, mais il deviendra un grand Jedi. Dans les séries, ça ne se passe pas comme ça. Dans les séries, dans les séries, les héros doivent cohabiter avec leur névrose. C'est-à-dire que vous avez à la fois une histoire qui évolue, mais en même temps, le héros ne va pas complètement changer. Il va s'affronter régulièrement à ses propres névroses. Donc vous allez avoir un schéma de thème et de variation, plus qu'un schéma de récit initiatique linéaire.
Bah, merci beaucoup à vous trois pour cette émission. Malheureusement, le temps interrompt. C'est peut-être ça aussi, sans préjugés, s'interroger sans préjugés, c'est abolir des frontières entre des disciplines, montrer que l'écriture de séries, de littérature, de romans, de poésie sont confrontées à des situations, des conditions analogues. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé l'émission et à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde, émission que vous pouvez retrouver sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.